spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute CHIZ 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Bienvenue à Question de savoir, l'émission des cycles supérieurs de l'Université Laval, présentée par l'Allier. Mon nom est Marie-Ève Duchesne, je suis attachée aux communications. Aujourd'hui, nous parlons du STEP et des revendications du syndicat avec Vincent Monplaisir et Michaël Dugeoffroy. Bonjour messieurs et bienvenue ou re-bienvenue à Question de savoir.
Merci.
Bonjour.
Vincent, je crois que c'est ta deuxième émission, si je ne me trompe pas.
Tu crois bien. C'est la deuxième émission. On avait fait une autre émission l'an dernier par rapport à la préparation à la négociation.
Exact. On avait fait ça avec Albert à l'époque et
Amélie, Lydie, peut-être. Non, okay. Amélie.
Amélie, oui, excusez-moi. Donc, je mentionne le nom du STEP, mais qu'est-ce que le STEP pour les étudiants et étudiants qui ne vous connaissent pas et que vous représentez?
Oui, bah justement, alors j'allais répondre à cette question moi en me présentant très rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Michaël Dugeoffroy et je suis le trésorier du STEP. Donc savoir que le STEP, ça veut effectivement dire syndicat des travailleurs, travailleuses, étudiants, étudiantes et stagiaires postdoctoraux, postdoctoral. Donc finalement, comme le dit l'intitulé, hein, qui en fin de compte calqué un peu sur notre unité d'accréditation, ça, la description de notre unité d'accréditation, on va représenter tout un tas d'auxiliaires qui sont en emploi sur le campus de l'Université Laval. Bon, plus vraiment sur le campus en ce moment, mais voilà, c'est ça, c'est des auxiliaires administratifs, d'enseignement et de recherche, ainsi que des auxiliaires assistants d'enseignement également, qui sont justement au nombre de 5000. Les stagiaires postdoctoraux, postdoctorales sont plutôt au nombre de 200. Et également, on représente également des travailleurs, travailleuses du centre d'aide étudiant au nombre de 25. Je ne veux pas oublier non plus les étudiants et étudiantes qui travaillent au service d'ordre étudiant, voilà, qui assurent la sécurité dans certains événements du temps où il y avait encore des événements sur le campus. Donc, c'est à peu près ça. Finalement, pour parler un peu plus de la forme syndicale de l'organisation, c'est une organisation démocratique. On représente nos membres qui peuvent décider de nos orientations dans des instances prévues à cet effet, comme les assemblées générales, évidemment. C'est ça. On est un regroupement de salariés qui s'organise collectivement pour défendre des droits et promouvoir les intérêts de nos membres.
Excellent.
Voilà,
ça fait pas mal le tour de la question. Puis, ça serait quoi votre rôle, outre la représentation de ces membres-là? Qu'est-ce que vous avez comme rôle au sein de l'Université de Laval, comme syndicat d'enseignement qui regroupe les enseignants et les auxiliaires?
Autre que la représentation, c'est quand même difficile à dire parce que c'est en fait la raison de notre existence, ça, c'est de représenter nos membres qui sont des travailleurs en tant que travailleurs à l'université. La représentation, elle se fait pas uniquement au niveau des ressources humaines parce que on les représente comme travailleurs. Donc, quand ils ont besoin de parler avec, ouvrir les guillemets, l'employeur, fermer les guillemets, ils ont besoin de parler avec les ressources humaines. Mm-hmm. Mais on négocie également des conditions de travail. Donc, c'est pour ça qu'on est en négociation. On négocie des conditions de travail de nos membres, des travailleurs. Sinon, on essaie de jouer quand même un rôle assez important à l'intérieur de l'université. Un peu comme l'allié ou la CADEL peut faire, dans le sens que l'allié ou la CADEL vont représenter des étudiants, mais ils vont essayer d'avoir un... Ils vont essayer de comme de s'étendre de manière un peu plus... essayer de gagner un peu de pouvoir un peu partout dans les instances universitaires pour faire voir ce point de vue-là. Mm-hmm. Et donc, le STEP, on va essayer de faire ça. Je sais qu'on siège sur certains comités, sinon on va des fois s'impliquer dans des campagnes de manière un peu plus politique, notamment la réforme du PEC dans laquelle on a eu plusieurs étudiants du STEP qui ont donné vraiment beaucoup d'efforts sur ce dossier-là, dont Michael qui est avec moi aujourd'hui.
Exactement. Puis votre rôle aussi en même temps, c'est que vous représentez ces étudiants-là au sein des instances, on en parlait, mais aussi quand vous participez à des événements, par exemple de l'Allier, parce que vous êtes aussi membre des supérieurs. En étant supérieur, vous êtes aussi membre de l'Allier, donc vous représentez des membres qui font partie de l'Allier aussi en même temps.
Mm-hmm. Absolument.
Absolument. Puis, on parlait de votre représentation syndicale. Après la pause, on va parler des négociations qui sont en cours, des négociations collectives que vous faites présentement avec l'administration. On va en apprendre un peu plus sur comment ça se déroule, comment fonctionne une négociation salariale. On va aller en pause musicale, puis on vous revient dans quelques minutes.
Je partirai tellement aujourd'hui. Je partirai au milieu de la nuit. Je dirai bonsoir à tous mes amis. Et je m'en irai. Je préfère toujours recommencer. Faut-il tellement aimer pleurer?
Retour à Question de savoir, Marie-Ève avec Vincent et Michael du STEP. Présentement, vous êtes en négociation avec l'administration de l'Université Laval. Quelles sont les principales revendications du syndicat et comment se déroulent les négociations?
Donc, au fond, on a vraiment beaucoup de demandes. Si je me rappelle bien, quand je vous avais compté, il y en avait environ une trentaine. Donc, c'est difficile de dire il y a un ou deux points, mais généralement, il y en a trois que je soulève tout le temps qu'on vient m'en parler. Premièrement, c'est l'adaptation au travail à distance et également à l'éducation l'éducation à distance. Ben oui, je peux dire ça. Je pense que la pandémie ça a accéléré un mouvement qui était déjà entamé. Là, on voyait de plus en plus de cours à distance à l'université. Maintenant, c'est vraiment utilisé at large. Puis ça vient changer un peu toute la nature du travail, puisque maintenant, faut travailler de chez soi. Après la pandémie, ben ça va être de chez soi, des fois dans un café. Puis donc, le lieu physique de l'université sera plus nécessairement le premier endroit où les personnes vont venir travailler. Donc, l'adaptation. On veut également parler de la place des professeurs dans la... quel rôle a le professeur dans le contrat de nos membres? Donc, c'est un sujet qui est quand même relativement délicat parce qu'un professeur, c'est pas techniquement un supérieur pour nos travailleurs, mais il y a quand même une relation de pouvoir et donc on essaie de trouver des manières pour reconnaître un peu mieux ce rôle-là de professeur. Ça nous permet d'avoir peut-être un peu plus d'emprise quand on essaie de représenter notre membre qui se retrouve des fois un peu confus entre ces deux notions-là. Puis finalement, oui.
Je voulais savoir, là, présentement, est-ce que c'est que certains membres vous ont parlé de problématiques d'encadrement entre supérieurs puis entre salariés? Ou en professionnel de recherche, par exemple?
Ben c'est toujours... c'est comme un sujet sous-jacent à peu près tout ce qui se passe. Donc, si j'ai un cas d'harcèlement psychologique, souvent, ça va être entre un travailleur puis un professeur. C'est dommage, là, il y en a peu, mais c'est quelque chose qui existe. On a vraiment beaucoup de membres, donc c'est normal que ça arrive. Mm-hmm. Sinon, ça peut être sous la forme d'un professeur qui va promettre oralement un contrat à un étudiant. Puis donc, quelle est la valeur de cette promesse-là? Ben, je ne sais pas, ça a déterminé. En reconnaissant cette espèce de dynamique-là, ben, on pense être capable de mieux l'adresser, en fait. Puis notre troisième intérêt particulier, c'est celui des salaires. Donc, c'est vraiment un classique de travailleur. On veut un meilleur salaire. Mais il faut dire que... Faut dire que comparément à l'île de Montréal, nos salaires sont pas tant compétitifs. Et donc, on a quand même des bonnes raisons de demander des augmentations salariales qui sont relativement généreuses. Voilà.
Excellent. Puis comment ça se déroule, les négociations pour une personne qui n'a jamais été en négociation salariale? Comment se déroulent les négociations en général si on y va vraiment très général?
OK. Je parlerai pas alors du ton des négociations, mais en gros, comment ça fonctionne, c'est qu'on a d'abord créé un cahier de demandes. Ça nous a pris vraiment très, très longtemps, là, plusieurs mois, plus qu'un an. On a pris des informations d'un peu partout. Shout out à la dernière émission que j'ai faite ici parce que c'est parce qu'on l'a expliqué comment on a fait cette recherche-là puis ce cahier-là. Puis ensuite de ça, l'employeur puis les représentants des salariés s'échangent leur cahier de demandes. On regarde ces demandes-là, puis ensuite on s'assoit à une table de négociation et on va littéralement négocier chacune des demandes. Donc, si l'employeur a une demande sur un article dans la convention collective, va dire bon ben moi j'ai inclus je veux cette modification là pour la raison A B C D, ça me crée un problème. Là nous on veut dire ok ben tu sais ça a de l'allure, puis ça nous énerve pas trop de faire cette modification là, c'est correct. Ou des fois ça va être ben regarde, je comprends ton intérêt, le problème c'est que ça affecte négativement mes membres, donc on va essayer de trouver des solutions. Puis là on va passer comme ça sur chacune des demandes.
Donc, des négociations, ça peut prendre... Michael, je vais te laisser y aller.
Oui, c'est ça. Il y a tout un rationnel à apporter à chacune de nos demandes. On ne peut pas se permettre de juste formuler une demande sans l'appuyer avec justement une justification comme que ça a posé problème par le passé. Ou ben, voilà, faut vraiment qu'il y ait un intérêt justifié. Et on va souvent commencer par négocier tout ce qui est normatif, donc comme les clauses qui portent sur la protection de l'emploi, c'est les paliers d'emploi ou autres là. Et après ça, on va commencer à parler du monétaire quand on aura commencé à finir de régler le normatif. Puis on voit une dynamique se dessiner là, parce que justement, c'est donnant-donnant, il y a des concessions et des gains de part et d'autre. Et à un moment donné, on voit que bah, si c'est pas équilibré, sinon on a trop donné, va falloir que à un moment donné, de l'autre côté, ils nous rendent un peu l'appareil sur d'autres sujets. Donc, c'est toute une dynamique sur tout le long du processus. Et à la fin, il faut quand même effectivement que les deux parties soient satisfaites. Finalement, on aura peut-être lâché quelques affaires, mais sur des morceaux qui nous tiennent à cœur, on aura réussi à avoir gain de cause. Voilà.
Excellent. Puis le ton se passe bien pour l'instant. Est-ce que vous avez, si jamais l'administration écoutait l'émission Question de savoir aujourd'hui, ça serait quoi que vous aimeriez qu'ils retiennent de cette émission-là, puis de ce que vous voulez obtenir avec les négociations?
Ben le ton va bien. En fait, c'est très cordial. On s'entendait vraiment très très bien au début. Je pense que si j'ai un message à passer, c'est juste que je pense qu'on, puis ils le savent aussi, c'est qu'on commence à voir les lignes de fracture. On commence à voir, bon ben, c'est sur tel point on va chicaner, tel point on va chicaner. Donc ça fait en sorte que les négociations vont peut-être avancer un peu plus lentement, puis on va peut-être prendre plus de temps chacun de notre côté à élaborer des solutions. Mais je pense que tant que on garde cette idée comme quoi il faut s'échanger des solutions plutôt que de s'échanger des problèmes, j'ai pas trop d'inquiétude sur le fait qu'on est capable de avoir des ententes concernant toutes les priorités des travailleurs puis toutes les priorités de l'université.
Excellent.
Souvent, il faut éclaircir en fait les sujets dont on parle, parce que avant toute chose, il faut se comprendre. Puis c'est ça qui peut prendre un peu de temps des fois aussi. C'est comprendre là où ça bloque pour la partie adverse, et puis pourquoi c'est pas possible, par exemple techniquement. Qu'est-ce qui serait possible de faire? Et des fois même la partie syndicale peut éventuellement apporter des solutions à la partie patronale pour, tu sais, qu'en tant que proposition qu'elle pourrait évaluer et puis nous revenir là-dessus par la suite. Là. Ce sont des exemples.
Excellent. Puis j'ose poser la question, si vous faites des avancées à la table des négociations, est-ce que vous devez passer ça par les membres? Est-ce que la négociation que vous faites présentement doit être passée par les membres avant ou après?
Donc au fond, je ne sais pas si tu le savais, mais le mouvement étudiant est calqué sur le mouvement syndical, et donc il y a beaucoup de similitudes à faire entre l'un et l'autre. Notamment l'utilisation d'Assemblée générale pour comme instance, dernière instance pour accepter des ententes.
Des propositions.
Ouais, des propositions ou des ententes. Donc là, dans ce cas-ci, on ferait une entente avec l'employeur, puis le but, c'est d'arriver avec cette nouvelle convention collective, ces conditions de travail qui sont négociées, puis dans une Assemblée générale, la faire accepter par nos membres.
Excellent. Puis, comme dernière question, si un membre de l'allié, un ou une membre de l'allié est auxiliaire de cours ou du centre d'aide et qui a besoin de votre support, comment peut-il vous contacter?
Oui, alors ben, tu l'as bien dit tout à l'heure, Marie-Ève, il y a toute une partie des membres de l'allié qui sont aussi membres du STEP, c'est important de le dire, en tant que souvent auxiliaire de recherche, auxiliaire d'enseignement ou assistant d'enseignement. Donc à cet effet, effectivement, il est important qu'ils puissent nous joindre en tout temps quand on est mettons sur des jours ouvrables là. Alors ça va passer par Facebook, comme on en a une page Facebook sur laquelle justement on partage nos événements. Donc, tout simplement, je crois que c'est Step U Laval, il me semble, sur Facebook. On a un site internet, donc infostep.org, où vous pouvez trouver aussi toutes les informations comme les conventions, les taux horaires. Ça peut être aussi tout ce qui a trait à l'historique du Step, le suivi des négociations. Également, on communique énormément par le courriel institutionnel de l'Université Laval, donc par lequel on offre, on partage les offres d'emploi, aussi nos événements, et quand justement on a des sondages à faire passer, c'est également la plateforme qu'on utilise. Donc c'est les trois principales modalités, je dirais, de communication du CEP. En ce moment, évidemment, on n'est pas vraiment présent au local, comme vous pouvez vous en douter, donc ce serait pas trop utile d'appeler sur le téléphone du local, vous risquez de pas être répondu, mais sinon, par courriel, toutes les adresses d'ailleurs des exécutants sont spécifiées sur le site web.
Exactement. Donc c'est ce qui fait le tour pour... C'est ce qui met fin, pardon, à Question de savoir. Des petites annonces pendant qu'on y est. Si vous êtes membre de l'Allié et que vous souhaitez participer à NEO, nous sommes présentement en recrutement pour les facultés suivantes. La faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et design, la faculté de théologie et de sciences religieuses et celle des lettres et des sciences humaines. NEO, c'est quoi? C'est notre concours de vulgarisation scientifique. C'est des capsules d'environ une dizaine de minutes qui explique votre projet de recherche. Et présentement, on est en recrutement jusqu'au 12 février prochain. La campagne EDI se poursuit. On a eu notre forum sur le EDI la semaine dernière concernant le comité des cycles supérieurs pour le EDI. Donc, cette semaine, la campagne se poursuit avec le concours EDI. Si vous avez des photos à nous partager, vous pouvez le faire à interne@commercialallié.ulaval.ca. Et on vous souhaite de passer une belle fin de journée. Merci beaucoup, Vincent et Michael, pour avoir participé à Question de savoir. C'est toujours un Merci plaisir beaucoup. De vous avoir. Puis, bonne chance pour les négociations salariales puis les négociations syndicales.
Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Bonne journée.
Bonne journée.
Ta main tremblante, labyrinthe sur ma peau. Les chemins qu'elle arpente se perdent sur mes os. Dans nos yeux, le soleil crève. Il ne reste que nos ombres. Tu te fais tard sur mes lèvres. Faut-tu que ta bouche s'effondre? Oh! rêve réponse et la danse qui s'achève jusqu'à ce que ça recommence encore.
Chiz 94.3 FM à Québec.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Bord de la réveilleur Saint-Charles, boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Du 12 au 20 février 2021, le festival de diffusion alternative Le Focoff est de retour pour une 7e année consécutive. La différence, ça se passe devant votre écran. Une quarantaine d'artistes de la scène émergente et alternative seront en showcase tout au long du festival. Retrouvez notamment Ariane Roy, Alexiane, Canen, Ombre, Narcisse et Pastel Barbeau. Le Focoff du 12 au 20 février. Toutes les informations au focoff.com. Focoff.